Automne 72, les textes fracassants du jeune journaliste avant d'être politicien, Jean-Pierre Charbonneau, révèlent des liens entre le milieu politique, le monde interlope, le gouvernement Bourassa, alors au pouvoir, sous pression, déclenche la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, on va l'appeler comme ça également, diminutif pour le bien de notre conversation. Il y a un docu-fiction, Le pouvoir fantôme, qui nous plonge d'ailleurs dans les coulisses de cette commission publique, qui s'est avéré par la suite un électrochoc pour la population. Docu-fiction qui sera présenté le 25 janvier, ce samedi 20h, sur Historia. On peut d'ailleurs entendre un bout.
Est-ce que vous êtes passé par un tiers pour verser une somme importante au Parti libéral?
Dans les années 60-70, le crime organisé emmenait pas mal d'argent.
Laissez les forces de l'ordre faire le travail de façon indépendante.
La SECO a brassé beaucoup le monde interlope.
C'est gros, ça.
Je vais quand même pas me laisser narguer par un petit journaliste qui a encore la couche aux fesses.
On en parle tout de suite avec le scénariste et c'est Tristan Malavoie qui est avec nous. D'ailleurs, on le voit aussi à titre d'interlocuteur pour nous raconter les faits dans cette docu-fiction. Tristan Malavoie, bonjour.
Bonjour.
Et pourquoi vous avez eu cette envie justement de scénariser, de raconter cette histoire de notre passé chez nous au Québec?
Il y a 3 ou 4 ans, j'avais co-scénarisé un autre docu pour Historia qui s'appelle Gangster et le ministre. Il y en a peut-être des gens qui sont à l'écoute qui étaient tombés là-dessus. Et déjà, ça explorait les rapports entre le crime organisé et le monde politique dans les années... C'était un petit peu plus tôt que l'histoire du pouvoir fantôme, donc dans les années 50-60. Et ça a très bien marché, ce docu-fiction. Il y a eu presque même plus d'un million de visionnements. Et après ça, donc, Historia, nous, on avait envie de continuer cette exploration. Et au départ, on est parti sur la piste de l'histoire de Jean-Pierre Charbonneau, hein, qu'on connaît comme politicien, qui a été président de l'Assemblée nationale, mais qui, dans sa jeune vingtaine, était un journaliste d'enquête pour Le Devoir, qui faisait trembler le monde du crime organisé par des enquêtes là, vraiment très, très fouillées, très mordantes. Et donc, on commence à discuter avec Jean-Pierre, on se demande est-ce qu'on raconte sa vie, tout ça. Finalement, on tombe, durant nos discussions avec lui, sur ce sujet de la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, qu'il couvrait à 22-23 ans, hein, il était tout jeune encore. Et puis là, on s'est dit, oh, là, il y a vraiment un sujet. Donc, on va impliquer Jean-Pierre dans notre démarche, mais notre sujet, ça va devenir cette SECO qu'on a beaucoup oublié au Québec. Hein. Quand j'en parle à même moi-même, je connaissais à peine, pour être très, très honnête, mes parents s'en souviennent, ouais. Les gens d'un certain âge s'en souviennent, les plus jeunes ne voient même pas ce que c'est. Donc, on trouvait ça important de rappeler ce que ça a été parce qu'il s'est joué là des choses très, très importantes qui ont encore des incidences aujourd'hui.
Oui, puis il y avait une autre commission dans les années 70, évidemment, la commission Clich aussi, qu'on a beaucoup entendu parler. Peut-être un peu plus parce qu'il y avait des acteurs comme Mulroney, Lucien Bouchard et compagnie, mais chose certaine, ça a eu une importance sur l'histoire contemporaine du Québec, là, même jusqu'à nos jours, la SECO.
Majeur, d'ailleurs, parler de la commission Clich, le juge Dutil, qui a été le commissaire en chef le plus important de cette commission, la SECO, il s'est fait connaître durant la commission Clich. C'est là qu'il s'est fait remarquer, puis on lui a confié. Ça a été le deuxième commissaire à travailler sur la SECO. Il est arrivé en 1974, et ça a été, durant la période où il en était le responsable, la période la plus croustillante, on va dire, la plus chargée de la SECO, qui s'est étalée dans les faits de 1972 à 1984. Et la période charnière, c'est 1974, 1976, 1977. Le juge Dutil est là, et lui, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Il fait défiler les bonzes de la mafia montréalaise.
Les Cotroni.
Jean Dubois, les Cotroni, Paolo Violi et compagnie. Et puis, il les cuisine avec ses co-commissaires. Il est vraiment très, très frondeur. Et puis, c'est durant ces années-là qu'il y a des choses quand même importantes là, qui sont mises au jour, notamment le scandale de la viande avariée, qui a été un électrochoc pour le Québec. Il faut quand même dire que ce juge Dutil, il a pris une décision importante à un moment donné. Il dit, c'est tellement majeur, là, les discussions qu'on a, les audiences qu'on mène à huis clos jusque-là, tellement important pour la société québécoise qu'il faut que ça devienne une vraie enquête publique. On va désormais télédiffuser ces audiences-là. Alors, à partir de 1975, les audiences de la SECO ont été télédiffusées à heure de grande écoute. Et puis, je suis certain qu'il y a des gens là, d'un certain âge, disons, qui nous écoutent, qui se souviennent de ça.
Ouais, c'était un feuilleton. Là. Il y avait beaucoup de gens qui écoutaient. Je pense que c'était quasiment autant populaire que le hockey. Là.
C'était aussi populaire que la soirée du hockey. C'était un vrai de vrai feuilleton. Les gens s'installaient le soir chez eux puis ils écoutaient le juge Dutil et compagnie, cuisiner, Violi et compagnie.
Ouais, et d'ailleurs, aussi, quand on regarde la formule que vous avez embrassée pour tout ça, nous expliquer les choses, docu-fiction, Quelle est la part un peu de d'empreinte, de réalité, de fiction? Comment départager le tout quand on est quelqu'un qui va le visionner ce samedi à Historia?
C'est une excellente question. Moi, j'aime beaucoup ce genre de la docu-fiction parce que pour moi, ça permet de remplir les trous. Et quand on s'intéresse à un événement historique, il y a ce qui est vérifié, ce qui est vérifiable, ce dont on est sûr, puis il y a ce dont on est moins sûr. Il reste des trous. Dans la docu-fiction, on fait ce que j'appelle des hypothèses informées. C'est-à-dire qu'on va chercher toute l'information qui existe. Nous autres, pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a fouillé tous les documents d'archives, lu tous les livres, tous les articles qui ont été écrits sur la SECO. On a parlé à différents spécialistes. Et puis, il y avait ces trous à combler où on a imaginé des discussions. Par exemple, quand le clan Cotroni prévoit le racket de la viande avariée, dont on pourra peut-être parler un peu parce que c'est assez incroyable comme histoire. Et alors là, on imagine des discussions qui ont eu lieu, mais de la façon la plus informée possible. Pour répondre clairement à la question, je dirais que, mon Dieu, 70-75% de ce que vous allez voir dans le pouvoir fantôme, c'est vérifié, vérifiable. Pour le reste, on imagine des choses, mais en s'appuyant sur des thèses qui ont des
témoignages.
Et puis, on n'invente rien, mais on fait tout un collage, disons. Et parfois, c'est assez mordant parce que on sait que le marchand de drapeaux, par exemple, durant une certaine période, est un petit peu plus nonchalant devant le crime organisé. On dit ça. On sait que Pierre Laporte, dont on se souvient comme le grand martyr d'octobre 70, plus tôt cette année-là, au printemps 70, 2 semaines avant l'élection du Parti libéral de Bourassa, il avait eu une rencontre, ça c'est documenté, il y a eu une filature policière dans un appartement de la rue Sherbrooke à Montréal. Il a rencontré avec 2 attachés politiques et organisateurs politiques. Il a rencontré Franck Gosselin et Nicolas Diorio, qui étaient des noms importants.
Ma fille aux os, là, oui.
Exactement. Donc, on le sait avec assurance, puis après, on imagine un peu quelle discussion il y a pu avoir lieu.
Et c'est sûr que ce qui est peut-être la réponse aussi à tout ça, ce sera notre mot de la fin, Tristan Malavoie, mais la réponse, c'est peut-être l'élection du Parti québécois en 76. Et finalement, lorsque René Lévesque est arrivé avec son gouvernement, la loi sur les financements des partis politiques, c'est peut-être ça la réponse à tout ce qui s'est passé dans les années 70 concernant le monde interlab qui frayait avec le monde politique aussi.
Oui, tout à fait. Ce qui est ressorti quand même durant cette enquête-là, c'est qu'il fallait faire le ménage en matière de financement des partis politiques. Et ça, c'était le bout qui a un petit peu éclaboussé ceux qui ont créé la SECO eux-mêmes, c'est-à-dire Robert Bourassa, Jérôme Choquette, son ministre de la Justice. Et bon, c'est pas que pour ça qu'ils ont perdu les élections de 76.
Non, mais oui.
Bien des historiens, c'est une des conséquences-là. J'ai pas pu parler de la viande avariée, mais regardez le pouvoir fantôme ce samedi, parce que c'est assez incroyable. C'est l'histoire de la mafia qui a fait manger littéralement de la charogne aux gens qui étaient en visite à Expo 76.
Oui, c'est ça. Puis je sais, c'est un grand pan de ce documentaire, de ce docu-fiction, puis de notre histoire aussi. Mais bon, évidemment, le temps file. Mais merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, Tristan Malavoie, pardon.
Merci infiniment.
À bientôt. Alors, Tristan Malavoie, qui est scénariste du Pouvoir fantôme sur Historien, c'est ce samedi 25 janvier à 20h.